de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le premier ministre australien nie de couper la sécurité sociale s'il est réélu. Le vice-président reçoit la visite de l'ambassadeur d'Espagne pour discuter du renforcement de la coopération. La commémoration du 67e anniversaire de la conférence afro-asiatique, 110 drapeaux sont levés. GPDRR 2022, un événement pour l'Indonésie pour encourager le monde à renforcer la résilience aux catastrophes. Le ministère du Tourisme et de l'économie créative lancera des événements parallèles pour le tourisme et l'économie créative au G20 2022. Le réserve de Kuburaya reçoit la visite du directeur de l'USAID en Indonésie. BPS a enregistré un excédent de la balance commerciale d'Indonésie de 4,53 milliards de dollars américains en mars. Voici le journal complet. Le premier ministre australien Scott Morrison a nié lundi que son gouvernement réduirait la couverture d'assurance sociale de Medicare s'il était réélu le mois prochain. Reuters a rapporté avant les élections du 21 mai, que les travaillistes considèrent les efforts pour protéger Medicare comme un différenciateur important entre eux et la coalition nationale libérale qui prétend exceller dans la gestion de l'économie et la protection des frontières. Faisant campagne à Perth pour annoncer le projet de deux nouveaux patrouilleurs de la marine, Morrison a rapporté Reuters a tourné son attention vers la politique des demandeurs d'asile. Il a déclaré que le nouveau patrouilleur jouera un rôle important et continue dans la capacité de l'Australie à protéger les frontières, tout en critiquant l'approche du Parti travailliste sur la question dans le passé. Le vice-président Maruf Amin a reçu la visite de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Indonésie, Francisco de Assis Aguilera Aranda, au bureau du vice-président de Jakarta lundi. Après la réunion, le vice-président Maruf Amin a déclaré qu'il y avait encore beaucoup de choses que les investisseurs espagnols pourraient faire en Indonésie. Il a déclaré que l'investissement en Indonésie, outre d'obtenir un marché national et régional suffisamment important, avait également un potentiel économique qui continuait de croître. Il a également demandé une coopération accrue entre l'Indonésie et l'Espagne dans les domaines aérospatial et maritime. Pendant ce temps, l'ambassadeur Aguilera a déclaré que l'un des aspects importants des relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Espagne est l'augmentation de la coopération dans le secteur économique. Aguilera a également invité les entrepreneurs indonésiens à explorer les produits je veux dire les produits espagnols qui pourraient être exportés vers l'Indonésie et à profiter de l'accord commercial, de l'accord de partenariat économique global CEPA entre l'Union européenne et l'Indonésie. La commémoration du 67e anniversaire de la conférence afro-asiatique KAA a été marquée par le hissage de drapeaux de 109 pays d'Asie et d'Afrique ainsi que d'un drapeau des Nations Unies au musée de la conférence afro-asiatique en ville de Bandung, Java occidentale, lundi. L'activité de levée du drapeau a impliqué plus de 300 membres des scouts de la branche de la ville de Bandung. C'est ce qu'a déclaré le chef du musée de KAA, Dahlia Kusuma Dewi, dans un communiqué du ministère indonésien des Affaires étrangères reçu à Jakarta lundi. Pour anticiper les foules, le musée de KAA propose également des diffusions en ligne via Zoom et la chaîne YouTube @AsiaAfricaMuseum. L'essage du drapeau s'est poursuivi avec la socialisation de l'histoire et des valeurs de KAA comme réflexion du parcours du mouvement KAA. L'événement qui s'est tenu dans la salle principale du bâtiment Merdeka, en plus de limiter le nombre de participants physiquement présents, la durée a également été assez courte. La commémoration du 67e anniversaire de KAA a une série d'activités qui dureront jusqu'en juin 2022. La plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes GPDRR ou le Forum mondial pour la réduction des risques de catastrophes qui se tiendra le 23 mai 2022 à Bali sera l'occasion pour l'Indonésie d'encourager la communauté internationale à renforcer ensemble la résilience aux catastrophes. C'est ce qu'a déclaré l'adjoint au système et à la stratégie de l'Agence nationale de gestion des catastrophes BNPB Raditya Jati à Jakarta lundi. Raditya a déclaré que la conférence mondiale réunirait des délégués de 193 pays. Il pense donc que la discussion produira un concept pour les efforts internationaux de réduction des risques de catastrophes. Raditya a également déclaré qu'Indonésie, en tant qu'hôte du 7e GPDRR, jouera un rôle important car cela reflèterait la confiance de la communauté internationale. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative lancera des événements parallèles sur le tourisme et l'économie créative ou Parecraft lors du sommet du G20 de cette année pour soutenir la mise en œuvre des activités de la présidence indonésienne du G20. C'est ce qu'a transmis le ministre du Tourisme et de l'Économie créative Sandiaga Uno lors de son point de presse hebdomadaire à Jakarta lundi. Selon le plan, le lancement des événements parallèles de Parecraft aura lieu à l'hôtel Indonesia Kempinski mercredi demain avec deux catégories, à savoir les événements parallèles du fond et les événements parallèles non substantiels. Sandiaga espère que les événements parallèles à la présidence du G20 seront un élan pour la relance économique, créant les opportunités d'affaires et d'emploi le plus large possible. Le résident de Kubu Raya, l'ouest de Kalimantan, Muda Mahendrawan, a reçu lundi la visite du directeur de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID de l'Indonésie, Jeff Cohen. Kubu Raya est l'un des quatre districts soutenus par l'USAID dans le cadre du projet SEGAR, ou gouvernance environnementale durable dans toutes les régions, qui se concentre sur l'amélioration de la gouvernance environnementale. Muda Mahendrawan espère que les activités de l'USAID SEGAR à Kubu Raya pourront renforcer la carte de travail de développement de l'écosystème de données qui a commencé en 2021. Pendant ce temps, Jeff Cohen a déclaré qu'à travers le projet SEGAR, l'USAID aide les gouvernements locaux à renforcer les politiques et à mettre en œuvre une gouvernance environnementale plus durable. L'USAID renforcera également les capacités d'autres acteurs clés, y compris le secteur privé et les petits exploitants indépendants qui se sont engagés à réduire les impacts environnementaux tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'Agence centrale des statistiques BPS a noté que la balance commerciale de l'Indonésie avait enregistré un excédent de 4,53 milliards de dollars américains en mars 2022, avec une valeur d'exportation de 26,5 milliards de dollars américains et des importations de 21,97 milliards de dollars américains. Le chef du BPS, Margo Yuwono, lors d'une conférence de presse à Jakarta, lundi, a déclaré que l'Indonésie avait connu un excédent commercial pendant 23 mois consécutifs. Margo expliquait que les produits de base non pétrolière et gazière qui ont contribué à l'excédent le plus important provenaient des combustibles minéraux, des graisses végétales et des huiles animales ainsi que du fer et de l'acier. Les trois pays qui ont contribué à l'excédent le plus important sont les échanges avec les États-Unis, l'Inde et les Philippines. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. C'est une longue après le journal. Maintenant, nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « Le retour à la ville natale avec des protocoles sanitaires plus stricts ». Dans moins de deux semaines, les musulmans fêteront l'Eid al-Fitr. Pour les Indonésiens, c'est le moment qu'ils attendaient pour rencontrer leurs parents, leurs familles et leurs proches pour célébrer ensemble l'Eid dans leur ville natale. Cette opportunité a été retenue pendant deux ans en raison de la pandémie de COVID-19. Le président Widodo a officiellement annoncé l'autorisation pour le public de rentrer à la ville natale pour les vacances mercredi 6 avril. La décision s'accompagnait de la promesse du gouvernement de travailler fort pour offrir un service maximal. L'objectif est que les voyageurs puissent voyager en toute sécurité et confortablement. Cette politique, bien sûr, est bien accueillie par la population, en particulier par ceux qui ont reçu le troisième vaccin au rappel. C'est donc l'une des conditions que doivent remplir ceux qui veulent rentrer ces jours, alors que ceux qui n'ont que le premier et deuxième vaccin doivent montrer des résultats négatifs aux tests d'antigène et de PCR pour l'exposition à la COVID-19. Cependant, les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à subir des tests antigéniques, bien qu'elles n'aient pas reçu la troisième dose de vaccin. Le grand désir des gens de rentrer ces jours est prouvé par la vente de billets de train. Actuellement, 43% des 2,4 millions de billets de train ont été vendus. La joie de célébrer l'Eid al-Fitr dans la ville natale doit certainement s'accompagner d'une plus grande prudence, ainsi le respect des protocoles sanitaires est une obligation. L'obéissance à prendre soin de soi et des autres en mettant en place des protocoles sanitaires doit être fermement attachée, bien que basée sur l'enquête sur les anticorps du corps contre le virus menée par le ministère de la Santé. Les niveaux d'anticorps du peuple indonésien sont passés à 99,2%, mais la discipline d'exécution des protocoles sanitaires est certainement meilleure. De plus, célébrer l'Eid al-Fitr dans la ville natale est devenu le désir d'environ 85 millions de personnes selon les estimations du gouvernement. Une autre chose à laquelle les voyageurs doivent également prêter attention est la sécurité et le confort sur le chemin de leur ville natale. Les résultats de l'enquête du ministère des Transports montrent qu'il y a 23 millions de voitures et 17 millions de motos qui seront utilisées par les voyageurs cette année. Vous pouvez imaginer la densité sur les routes vers la ville natale. Le président Joko Widodo se concentrait sur cela. Il a également invité le public à éviter le pic de flux de retour à la ville natale les 28, 29 et 30 avril 2022. Le gouvernement indonésien a pris diverses mesures d'anticipation pour assurer le confort des voyageurs, telles que la réglementation et l'ingénierie de la circulation, y compris les règles pair-jean-pair, l'application à sens unique et l'interdiction aux camions d'entrer sur les routes à pillage. Mais la chose la plus importante est l'anticipation et la préparation des voyageurs. La joie de célébrer l'Eid al-Fitr à la ville natale ne doit pas faire oublier le respect des protocoles sanitaires en vigueur. La discipline stricte du port du masque, l'évitement des foules et de lavage des mains pratiqués depuis plus de 2 ans doit encore être privilégiée. Une autre chose qui devrait recevoir plus d'attention est la faisabilité et l'état de préparation de véhicules à moteur. La préparation physique pour un long voyage dans leur ville natale doit également être une priorité. Se réunir en famille et entre amis à la maison tout en restant à l'abri de la COVID-19 doit être la détermination de tous les voyageurs. Espérons qu'après le retour de l'Eid al-Fitr, il n'y ait pas d'augmentation des cas de COVID-19. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 19 avril 1930, la Fondation de l'Association de football de l'Indonésie, OPSSI, à Yogyakarta. L'Association indonésienne de football, en abrégé PSSI, est l'organisation responsable de la gestion des associations de football en Indonésie. Son premier président général était Insinyur Suratin Sosro Sugondo. Au cours de son voyage de l'organisation, PSSI a rejoint l'Organisme mondial de football, FIFA, en 1952, puis avec l'Organisme asiatique de football, AFC, en 1954. PSSI organise diverses compétitions et tournois tels que la Ligue indonésienne ou la Ligue 1, puis il y a la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue féminine 1 et la Coupe d'Indonésie. Passons maintenant à l'événement du 19 avril 1953, le décès de Wahid Hashim. Le premier ministre indonésien de la religion, Kyai Haji Abdul Wahid Hashim, est décédé à Chimahi, dans l'ouest de Java, le 19 avril 1953, à l'âge de 38 ans, dans un accident de voiture. Il est le père du 4e président de la République d'Indonésie, Kyai Haji Abdul Rahman Wahid ou Gusdur, et le fils de Muhammad Hashim Ash'ari, l'un des héros nationaux de l'Indonésie. Wahid Hashim a de nombreuses réflexions sur la religion, l'État, l'éducation, la politique, la société, Nahdlatul Ulama et les pesantren. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 19 avril 1961. Fidel Castro démissionne de la tête du Parti communiste cubain. Fidel Castro est un révolutionnaire et homme politique cubain aux tendances communistes. Castro a été premier ministre de Cuba en 1959 à 1976 et président de Cuba de 1976 à 2008. En outre, il a également été premier secrétaire du Parti communiste cubain de 1965 à 2011. Le 19 avril 2011, Castro a démissionné du comité central du Parti communiste. Raoul a ensuite été élu comme son successeur. C'est Juritard, c'est à l'histoire aujourd'hui pour ce soir.
Bola matamu, memancarkan harum tubuhmu, mengalirkan getaran, membuatku terpaku. Dihiasi lesung pipimu, menambahkan asmara saat ku menatapmu. Banyak pesan, tak memberi kesan. Kau bukanlah yang aku dambakan. Setiap minggu aku tak peduli berapa lama aku menunggu.
and you. You every single day just make me closer to you. And I fight for us too, 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 too.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée L'ambassadeur indonésien noue des liens d'amitié avec des personnalités clés pour renforcer les relations entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande. Vous êtes avec moi, Audrey. Chargée d'État, l'ambassadrice de la République d'Indonésie en Nouvelle-Zélande est simultanément au Samoa, au Tonga, aux îles Cook et à Niue. Fienche Marice Swebu est arrivée en Nouvelle-Zélande fin janvier 2020. Depuis lors, l'ambassadrice Fienche Marice Swebu s'est activement engagé auprès de diverses personnalités gouvernementales clés de Nouvelle-Zélande. Comme cité sur la page kemlu.go.id, 18 avril, telle une ambassadrice qui vient d'être affectée dans son pays d'accréditation, l'introduction a commencé par une rencontre avec le chef du protocole pour la Nouvelle-Zélande, Rod Harris, qui était alors suivi de la remise d'une lettre de créance du président Joko Widodo au gouverneur général néo-zélandais Dame Cindy Kiro le 22 février 2020. En outre, l'ambassadrice Fienche Marice Swebu a également eu plusieurs réunions avec diverses personnalités importantes du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères. En particulier, celle traitant des relations bilatérales avec l'Indonésie, notamment l'ambassadrice Nicole Burton, chef de division pour l'Asie du Sud-Est, et l'ambassadeur Mark Sinclair, sous-secrétaire du groupe Amérique et Asie du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Nouvelle-Zélande. L'ambassadrice Fienche a également rencontré le président du Parlement néo-zélandais, le très honorable Trevor Miller, et l'honorable Marshall Lubeck, le premier et le seul membre du Parlement néo-zélandais d'origine indonésienne, du Parti travailliste actuellement au pouvoir. À cette occasion, diverses questions ont été soulevées, notamment la communication des projets d'Indonésie d'accueillir diverses réunions importantes, notamment la 144e Assemblée de l'UIP et ses réunions connexes en mars dernier, la 7e session de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes en mai. Série de réunions dans le cadre de la présidence indonésienne du G20. L'ambassadrice Fienche a également exprimé sa gratitude pour la coopération, le soutien et l'assistance de la Nouvelle-Zélande pour alléger le fardeau de l'Indonésie face à la pandémie de COVID-19 en juillet 2021. Le gouvernement néo-zélandais s'est engagé à fournir un soutien à l'Indonésie sous la forme de 100 unités de ventilateurs non invasifs Airfo2 débit nasal élevé fabriqués par Fisher & Paykel Healthcare d'une valeur de
$800,000 néo-zélandais, des kits de tests rapides d'une valeur de $500,000 néo-zélandais via l'OMS et un soutien à l'Institut Aikman de biologie moléculaire concernant l'augmentation de la capacité de séquençage du génome d'une valeur de $270,000 néo-zélandais. Bien que diverses réunions aient dû être reportées en raison des contraintes de la pandémie de COVID-19 variant Omicron, qui atteignait son apogée en Nouvelle-Zélande, cela n'a pas refroidi l'enthousiasme des deux pays à pouvoir renforcer davantage la coordination et la synergie pour aller plus loin, faire progresser la coopération au milieu de diverses incertitudes dans le monde international. Bonjour Gétard, c'est tout mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sampai lah.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter le gâteau balok de Pandeglang comme iftar. Pandeglang est une région de la province de Banten. Elle a une cuisine traditionnelle qui a bon goût. L'un des plus célèbres est le gâteau balok. Ce gâteau semble être devenu une collation obligatoire le matin pour Orok Menes, qui est le nom familier du peuple Menes. Le gâteau balok a le goût de getuk qui est saupoudré d'oignons frits et de serundeng comme garniture. L'ingrédient de base pour la fabrication de ce gâteau est le manioc, un type de pain. Pour le faire, préparez d'abord le manioc qui est cuit à la vapeur pendant environ 1 heure, puis pilez pendant environ 15 minutes à l'aide d'un alu qui est un outil en forme de bâton en bois, de forme ovale allongée pour le pilage et du dulang. Il est plateau avec une surface plane, un cercle concave au milieu. Ce plateau sont en bois ou en laiton. Une fois que le manioc est lisse, il est imprimé en carré comme un balok de couleur blanche et ensuite saupoudré de garniture. Le gâteau balok est enveloppé de feuilles de bananier et de noix d'arec comme mûle. Ce gâteau est vendu au prix de 3000 jusqu'à 5000 rupies, selon la commande et la taille. Ce qui est unique et distinctif dans ce gâteau, c'est l'ajout de deux épices, à savoir des oignons frits mélangés à une sorte d'huile qui est enduite juste au-dessous de ce balok et n'oubliez pas d'ajouter du serundeng sur le dessous. Le gâteau balok Menes est généralement mangé par la population locale, accompagné de thé chaud ou d'eau de gingembre. Et cette combinaison est censée ajouter au plaisir des gâteaux que l'on trouve souvent sur les marchés traditionnels de Pandeglang. De plus, il est consommé comme menu de l'iftar. C'est pourquoi les gens recherchent généralement le gâteau pour être utilisé comme un délicieux iftar. Selon l'histoire locale, ce gâteau Menes est célébré depuis l'Antiquité. Il n'est pas vendu en dehors de la région de Menes. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
tanya yang tak terjawab, mampu menjatuhkanku yang dikira tegar. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Bukan menunggu tapi tak selamanya. Takkan jera, ku percaya cinta manis dan pahitnya kan ku terima. Kini kisah dengan makna lebih baik kita usah di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Tapi tak selamanya.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission
est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Ungkapan berterima kasih. Ungkapan berterima kasih. Remercier. Bonne écoute. Chers auditeurs, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Ungkapan berterima kasih. Ungkapan berterima kasih. Remercier. Cette conversation se déroule entre Dev et le personnel de cabine. Dev remercie le personnel de cabine de l'avoir aidé tout en gardant ses bagages dans le compartiment. Bonne écoute.
Saya bantu, Pak. Terima kasih. Sama-sama.
Chers auditeurs, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Ungkapan berterima kasih. Ungkapan berterima kasih. En français, remercier. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Terima kasih. Terima kasih. Merci. Sama-sama. Sama-sama. Je vous en prie. Chers auditeurs, dans la conversation, vous avez entendu les expressions terima kasih, terima kasih. En français, merci. Et sama-sama, sama-sama. En français, je vous en prie. Pour dire merci à quelqu'un en indonésien, on peut dire terima kasih, merci. Si quelqu'un vous remercie, vous pouvez répondre à sama-sama, sama-sama, je vous en prie. Chers auditeurs, dans la conversation de tous les jours, vous pouvez entendre le mot makasih. Makasih, merci. Le mot makasih, makasih, merci, est une forme plus courte du mot terima kasih. Terima kasih, merci. Chers auditeurs, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Saya bantu, Pak. Terima kasih. Sama-sama.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Maksud amarahmu membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berembus, aku jadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang
chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Voici le magazine musical de la voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, cette fois-ci, je vous présente une chanson malaise intitulée Zapinku di Ujung Angan, chantée par Usman et Vienna. Créée par Usman Bengkalis, cette chanson se compose de couplets rimés. La chanson parle du zapin, une danse traditionnelle malaise. Dans les paroles, on dit que la danse zapin a un beau mouvement. La chanson commence par basmala et devient une consolation de nostalgie. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Usman et Vienna, dont le titre est « Zapinku di Ujung Angan » ou en français « Mon zapin au bout du rêve ». Bonne écoute.
Sangatlah indah lagunya dimulai dengan bis.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.